Voilà, donc on va continuer le thème concernant cette image. Je pense que vous connaissez tous ce thème. C'est notre deuxième étude sur 6. Ça va occuper notre printemps. Donc c'est l'histoire de Noé. Et au travers de l'histoire de Noé, on va voir qu'au travers de ce personnage, on va apprendre beaucoup de choses sur plein de sujets différents. Alors tout d'abord, je voudrais faire un petit rappel de ce qu'on avait vu la dernière fois. Pour ceux qui n'étaient pas là, on avait vu quelques éléments. On avait vu que l'époque de Noé était caractérisée par un certain nombre de caractéristiques qui sont assez proches de ce qu'on vit aujourd'hui. Alors on avait vu 7 caractéristiques. Premièrement, une absence de repos. On a vu que le mot Noé signifiait repos. Il avait été donné par son père pour justement un peu contrebalancer cet effet pénible de l'époque à laquelle il vivait. C'est l'époque aussi de la démesure. Aujourd'hui, on est dans la démesure, mais à l'époque, on était dans la démesure. On a vu ces fameux néphilim, ces géants qui étaient sur la terre. Une époque aussi d'addiction et d'hyperaction. Aujourd'hui, on s'agite. Il y a des addictions de masse, des phénomènes d'addiction de masse. On est toujours dans l'action, on n'est jamais dans la réflexion. C'est pour ça que tout à l'heure, pendant le culte, il y a eu un moment de silence. Et je remercie le Seigneur, je remercie aussi vous tous, parce que vous n'avez pas rompu ce silence. Et ce silence est important. Pour ceux qui lisent les calendriers méditation quotidienne, il y avait une méditation ce matin sur Apocalypse 8, verset 1, où il y a eu une demi-heure, à l'ouverture du septième sceau, il y a eu une demi-heure de silence dans le ciel. Et le silence, parfois, est reposant, parce que ça permet de se connecter à Dieu, ça permet au Saint-Esprit d'agir dans nos cœurs, ça permet aux plus timides de s'exprimer. Voilà. Donc, mais à l'époque de Noé, c'était l'hyperaddiction. On vit aussi une époque d'hédonisme et de jouissance. Il faut profiter de la vie au maximum. Et puis, beaucoup de gens vivent dans la routine. Ils ne se posent pas la question de ce qui se passe autour d'eux. Ils vivent au jour le jour. Et enfin, jeunesse, culte du corps, perfection et une époque de corruption importante, on l'avait vu. Donc la société à l'époque de Noé était corrompue, mais au sens très violent du terme. Alors, 3 éléments qu'on peut retenir de la dernière étude. Premier élément, c'est que l'histoire de Noé nous parle du retour de Jésus, puisque Jésus en a parlé. Il y a d'ailleurs plusieurs personnes dans la Bible qui ont parlé de Noé. Ça veut dire que c'est important. On a vu qu'Ézéchiel parlait de Noé, on a vu que l'apôtre Pierre parlait de Noé, le Seigneur Jésus parlait de Noé. Donc il y a plusieurs personnes qui ont parlé de cette époque. Et notamment Jésus nous parle du retour de Noé, de l'époque de Noé, comme une époque voisine de celle qui va précéder son retour. Alors qu'est-ce qu'on peut retenir ? Ici, donc dans la deuxième partie de ce verset de Matthieu 24, on a ce qu'on appelle une structure en chiasme, c'est-à-dire c'est une structure qui permet de mettre en valeur le centre du chiasme, en l'occurrence l'action. Et vous voyez comment ça marche, le chiasme, il y a une descente, un aller et un retour, pour mettre en évidence l'action. Et ce qu'on peut mettre en évidence, c'est que d'un côté, il y a des gens insouciants qui ne se soucient pas de Dieu et qui font la routine, ils mangent, ils boivent, ils se marient. Et de l'autre côté, on a Noé qui agit totalement différemment. Noé entre dans l'arche, voyez. Donc il y en a un qui se soucie de son salut et qui met en œuvre, en l'occurrence, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui, qui met en œuvre son salut. Et de l'autre côté, on a des gens qui se soucient de rien du tout. Donc l'histoire de Noé nous enseigne sur ces deux attitudes. Et aujourd'hui, c'est pareil. Il y a des gens parmi nous ici-bas qui se soucient de leur avenir céleste, si j'ose dire, qui ont accepté le Seigneur Jésus dans leur cœur et qu'ils savent qu'ils rentrent en quelque sorte dans l'arche. Et puis, il y a tous les autres qui, les gens du monde, qui font leur jogging le matin. Il n'y a rien de mal à faire un jogging, mais qui ne se préoccupent pas des choses de Dieu. Donc, première chose, parallélisme entre l'histoire de Noé et l'histoire et le retour de Jésus. Deuxième chose, l'histoire de Noé va nous révéler son caractère, et c'est ce qu'on va voir au cours de ces études. Et aujourd'hui, on va insister particulièrement sur son caractère obéissant. Et la Bible nous dit en Genèse 6:9 que Noé marchait avec Dieu. Alors quand vous dites ça, Noé marchait avec Dieu, ça parle à personne. Si on va faire un petit tour, je vais marcher avec Dieu, voilà, je reviens, je marche avec Dieu. Mais en fait, c'est beaucoup plus profond que ça, parce que le mot qui est utilisé, marcher avec Dieu, c'est le même mot qui décrit Dans le jardin d'Éden, vous savez, il y a quatre fleuves. Et notamment, le troisième fleuve, c'est le fleuve Hiddekel, qui coule vers la Syrie. D'accord ? Donc, cette image de couler vers la Syrie, cette image paisible, hein, il y a un chant qui dit « comme un fleuve immense est la paix de Dieu ». Eh bien, le mot pour utiliser pour « coule », c'est le même mot que « marcher avec Dieu ». Vous voyez, donc on a cette idée de paisibilité. Mais plus encore, ce mot « marcher » en hébreu se retrouve également dans la Genèse, au chapitre 3, lorsque l'Éternel parcourt le jardin d'Éden. Vous savez, quand Adam a péché et qu'il va se cacher, il nous est dit dans la brise du soir, Dieu parcourt le jardin d'Éden. Donc cette image aussi de sérénité, paisibilité, qui est utilisée ici. Donc ça veut dire que Noé qui marche avec Dieu, c'est Noé qui marche dans une espèce de sérénité, dans une espèce de paix, dans une espèce de détente qui n'a rien à voir avec l'agitation du monde actuel. Et je crois que c'est un exemple pour nous. Que Noé marche avec Dieu, c'est cette sérénité, cette imitation de ce que Dieu fait, de sa création, ce fleuve Hiddekel qui coule paisiblement, c'est ça marcher avec Dieu. C'est marcher au quotidien dans une espèce de sérénité, même si l'environnement, on a vu que l'environnement de Noé était terrible, on y reviendra dans une minute, cette espèce de corruption, eh bien Noé marchait avec Dieu, comme son ancêtre Enoch. Enoch a marché avec Dieu, c'est le même mot, 300 ans, puis après il fut enlevé. Il ne fut plus parce que Dieu l'a pris avec lui. Donc, l'histoire de Noé nous apprend finalement des caractéristiques de ce patriarche hein, qui est un type de Jésus-Christ. Donc, on le verra au cours des études, on le verra notamment dans la dernière étude sur l'Alliance, hein, où David nous parlera des caractéristiques de Noé. L'une des caractéristiques qui fait de lui un type de Jésus-Christ, c'est quoi un type ? C'est une ressemblance à Jésus sans atteindre la perfection de Jésus. On sait que Noé a été pêcheur, enfin, après le déluge, il a commis des erreurs, il n'était pas parfait. Et c'est les caractéristiques d'un type, le type n'est pas parfait. Mais il a des caractéristiques de Jésus. Et notamment, on verra que Noé, par cette histoire, cette construction de l'arche, l'arche qui représente finalement quelque part cette église qui met la famille à l'abri, qui sauve sa famille, eh bien c'est l'image de l'église, hein, où Jésus-Christ qui bâtit son église, il met à l'abri l'humanité qui reste, hein, ses enfants, sa femme, et la femme de ses enfants, pour reconstruire une autre humanité. Donc Noé, marcher avec Dieu, c'est un mot très très fort qui évoque la paisibilité. Troisième caractéristique, l'histoire de Noé, je crois, au-delà de tout ça, nous enseigne des choses sur le caractère de Dieu. C'est-à-dire qu'en fait, cette histoire va contribuer à la construction de notre carte du monde. Alors, c'est quoi la carte du monde ? Hein, on parle de world view, hein, les anglo-saxons parlent de world view, c'est la carte du monde. Eh bien, c'est simplement notre système de croyances qui nous permet de regarder le monde d'une certaine façon. Je ne sais pas comment vous regardez le monde quand vous voyez une catastrophe, quand vous voyez un tremblement de terre ou une inondation. Alors, on peut le voir comme une fatalité si on ne connaît pas Dieu. Mais si on connaît Dieu, qu'on connaît la parole de Dieu, on sait que Jésus a annoncé des tremblements de terre, des catastrophes très proches de son retour. Voilà, donc c'est l'interprétation que nous faisons des événements au travers d'un filtre qui s'appelle notre carte du monde. Et donc, l'histoire de Noé va façonner quelque part, va contribuer à façonner notre carte du monde. Hein, on sait que l'histoire du monde, c'est une éternelle succession de démarrage, de chute, de redémarrage, de chute, de redémarrage. Et c'est ce que nous enseigne l'histoire de Noé. Et alors, au travers de cette histoire, nous comprenons mieux le caractère de Dieu. On peut comprendre l'intention de Dieu pour les hommes. Et c'est important de comprendre le caractère de Dieu, parce que vous discutez, par exemple, enfin, souvent on fait de l'évangélisation dans la rue, eh bien, vous discutez avec les gens vous disent « Oui, mais Dieu, quand on lit l'Ancien Testament, il y a des meurtres, il dit d'assassiner, de détruire des villes, etc. Dieu est violent, c'est quoi ce Dieu d'amour, etc. » Donc, si on prend ça au pied de la lettre, il n'a pas tort, finalement. Mais quand on regarde au fil de la Bible, on s'aperçoit que Dieu a un autre caractère. On avait vu donc la dernière fois que la terre était corrompue. Hein. Ce mot « corrompu » est un mot très fort, qui est répété trois fois dans ce texte. Et ce qui est intéressant, c'est que la terre à l'époque était pleine de violence. Le mot qu'il utilisait pour violence, c'est le mot Hamas. Ça vous dit quelque chose, Hamas, hein? Voilà. Eh bien, ce mot Hamas, ça signifie vraiment la violence à l'état pur, le mal, quelque chose de d'inique, d'injuste. Donc la terre était vraiment, c'était terrible ce qui s'est passé à l'époque. On n'y était pas, je n'y étais pas, vous non plus. Mais peut-être que quand on sera au ciel, on va interroger Dieu et on apprendra réellement ce qui s'est passé. En tout cas, la terre était pleine de violence et elle était corrompue. Eh bien, le mot qui est utilisé pour corrompu ici, qui signifie ruine, destruction, l'homme était complètement détruit à l'intérieur, et Dieu va utiliser le même mot hébreu pour dire je vais détruire la terre. C'est-à-dire, en quelque sorte, Dieu ne va pas détruire, intentionnel, mais Dieu ne va pas détruire par plaisir l'humanité, il va juste prolonger l'élan, puisque les gens sont tellement corrompus qu'il va accentuer et il va détruire. Donc c'est pour ça que le texte original utilise le même mot. Et c'est ce que nous dit par exemple Paul lorsqu'il parle aux Thessaloniciens, il parle de l'antéchrist, le moment où l'antéchrist va revenir. Les gens qui vont suivre l'antéchrist sont fermés à l'amour de la vérité, et Dieu à ce moment-là va endurcir ces gens, il va leur envoyer une puissance d'égarement pour qu'ils soient condamnés. C'est-à-dire qu'en gros, on est soit du côté de Dieu, soit du côté du mal. Si vous êtes du côté de Dieu, Dieu va sanctifier, il va venir habiter en nous, il va faire qu'on soit de plus en plus à son image. Si on choisit le côté du mal en rejetant volontairement Dieu, Dieu va accentuer tout ça. Mais il ne le fait pas volontairement, puisqu'Ézéchiel nous dit, la sentinelle d'Ézéchiel 33 nous dit que Dieu va finalement, il ne désire pas que le pécheur meure, mais il désire que le pécheur vive et se repente. Seulement, quand les gens choisissent le côté du mal, Dieu va, il va jamais laisser les gens au milieu. Il va jamais y avoir d'approximation. Oui, il aurait presque pu être sauvé. Non. Lorsque la personne rejette Dieu, Dieu va jusqu'au bout de son raisonnement. Et il va l'endurcir comme il a endurci Pharaon, comme aussi l'apôtre Pierre nous dit, le chien finalement retourne à son vomi, la truie va se retourner dans son bourbier. Au moins, il n'y a pas photo, comme on dit. Soit on est du côté de Dieu, soit on est contre Dieu. Et à ce moment-là, Dieu va accentuer tout simplement notre élan. Et donc, ce caractère de Dieu, il faut le comprendre. Dieu n'est pas un Dieu punisseur, c'est pas un Dieu méchant, c'est un Dieu qui désire que le pécheur vive. Vous voyez, dans le livre d'Osée, par exemple, lorsqu'il parle du peuple qu'il a rejeté, eh bien, Dieu fait le constat que personne ne veut élever le regard. Donc, le peuple d'Israël a délibérément, du temps d'Osée, rejeté Dieu. Et pourtant, regardez ce qu'il est écrit. Dieu, quand même, a compassion de son peuple. Il ne veut pas l'abandonner. Son cœur est bouleversé. On voit des émotions, on voit des sentiments de Dieu. Il est ému de pitié. Il n'agira pas selon son ardente colère. Il ne détruira pas Éphraïm. Parce qu'il est Dieu, parce qu'il n'est pas un homme, parce qu'il est saint. Voilà. Et c'est ça le caractère de Dieu. Malgré cela, il est obligé de punir cette humanité qui est tellement corrompu, c'est tellement irréversible, c'est presque protecteur pour Noé finalement. Il extrait Noé qui marche avec lui depuis tant d'années, il l'extrait de cette humanité corrompue. Donc Dieu n'est pas quelqu'un qui est punisseur, qui est méchant en quelque sorte, mais il va accentuer ce caractère. Et ça sera confirmé par l'évangéliste Jean, ce verset de Jean 3,16. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour condamner le monde. Le but de Dieu n'est pas de condamner le monde, mais de sauver le monde. Celui qui met en lui sa confiance n'est pas condamné, mais celui qui n'a pas foi en lui est déjà condamné parce qu'il n'a pas mis sa confiance dans la personne du Fils unique de Dieu. Je lis le texte de Jean 3, 17 et au-delà. Et voici en quoi consiste la condamnation, c'est que la lumière est venue dans le monde, mais les hommes ont préféré les ténèbres. Une fois de plus, Jean fait ce constat par la bouche, c'est Jésus qui parle dans Jean 3, 17 et plus. C'est les hommes qui choisissent les ténèbres parce que leurs actes sont mauvais. Donc le temps de Noé, le temps de Jésus et le temps d'aujourd'hui, les hommes sont désespérément mauvais. Celui qui fait le mal déteste la lumière, il se garde de venir à la lumière de peur que ses mauvaises œuvres soient révélées. Mais celui qui a une conduite conforme à la vérité vient à la lumière. Donc voilà, l'image de Dieu, ce n'est pas un Dieu qui désire punir, c'est un Dieu qui nous aime infiniment, qui souhaite notre bonheur, qui souhaite le salut de l'humanité, en sachant très bien que, comme il a donné à l'homme la liberté, beaucoup ne vont pas choisir cette liberté. Voilà ce que nous enseigne cette histoire de Noé. Et on avait terminé sur ce verset du psaume 11. Quand les fondements sont renversés, que peut faire le juste, celui qui obéit à Dieu? Eh bien, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Noé obéir totalement à Dieu. Et je vous invite à ouvrir vos Bibles en Genèse chapitre 6. Donc, on va lire deux passages en Genèse chapitre 6. On verra que c'est des passages qui sont vraiment parlants. Moi, j'ai découvert des pépites en étudiant ce texte. Alors, Genèse chapitre 6, on va lire donc, on s'était arrêté au verset 12 la dernière fois. Alors, Dieu dit à Noé, « J'ai décidé de mettre fin à tous les êtres vivants, car la terre est pleine de violence à cause d'eux, je vais donc les détruire avec la terre. » Fais-toi une arche de bois de gopher, tu disposeras cette arche en cellules et tu la couvriras d'un enduit en dedans et en dehors. Tu la feras comme suit, l'arche aura 300 coudées de longueur, 50 coudées de largeur, 30 coudées de hauteur. Tu feras à l'arche une ouverture d'une coudée disposée tout en haut, tu placeras la porte de l'arche sur le côté, tu feras un étage inférieur, un second et un troisième. Voilà, donc des instructions très précises. Quant à moi, je veux faire venir le déluge sur la terre pour détruire toute chair qui sous le ciel a souffle de vie, tout ce qui est sur la terre périra. Je lis dans la seconde version Colombe. Mais à toi j'établirai mon alliance. Avec toi j'établirai mon alliance. Tu entreras dans l'arche avec tes fils, ta femme et tes belles-filles. Tu feras aussi rentrer dans l'arche deux animaux de chaque espèce vivante pour qu'ils survivent avec toi. Tu prendras un mâle et une femelle, un couple de chaque espèce, oiseau, bétail, reptile du sol, viendra vers toi afin de survivre. Et toi, prends de tous les aliments que l'on mange et fais-en des provisions auprès de toi, pour que cela te serve de nourriture ainsi qu'à eux. C'est ce que fit Noé, il agit en tout point comme Dieu lui avait ordonné. Voilà, premier acte d'obéissance de Noé. Chapitre 7. L'Éternel dit à Noé, « Entre dans l'arche, toi et toute ta famille, car j'ai vu que devant moi tu es juste parmi tes contemporains. Prends auprès de toi 7 couples de toutes les bêtes pures, le mâle et sa femelle, un couple des bêtes qui ne sont pas pures, le mâle et la femelle. » 7 couples aussi des oiseaux du ciel, mâles et femelles, afin de garder en vie leurs descendants sur toute la surface de la terre. Car dans 7 jours, moi, je vais faire venir la pluie sur la terre, 40 jours et 40 nuits, et j'effacerai de la surface du sol tous les êtres que j'ai faits. Noé agit en tout point, comme l'Éternel le lui avait ordonné. Deuxième mention. Noé avait 600 ans lorsque le déluge survint sur la terre. Noé entra dans l'arche avec ses fils, sa femme et ses belles-filles pour échapper à l'eau du déluge, d'entre les bêtes pures et les bêtes qui ne sont pas pures, les oiseaux et tout ce qui rampe sur le sol. Il entra dans l'arche auprès de Noé des couples, un mâle et une femelle, comme Dieu l'avait ordonné à Noé. 7 jours après, les eaux du déluge vinrent sur la terre. L'an 600 de la vie de Noé, le 2e mois, le 17e jour du mois, en ce jour-là, toutes les sources du grand abîme jaillirent et les écluses du ciel s'ouvrirent. Il y eut de la pluie 40 jours et 40 nuits. Ce jour même, Noé, Sem, Cham et Japhet, fils de Noé, la femme de Noé et ses 3 belles-filles entrèrent dans l'arche avec tous les animaux selon leur espèce, tout le bétail selon chaque espèce, tous les reptiles qui rampent sur la terre selon leur espèce, tous les oiseaux selon leur espèce, tout ce qui vole et qui a des ailes. Il entra dans l'arche auprès de Noé des couples de toute chair ayant souffle de vie. Il en entra mâle et femelle de toute chair comme Dieu l'avait ordonné à Noé. Puis l'Éternel ferma la porte sur lui. Voilà, on va s'arrêter là. Donc, on a pour aujourd'hui, donc ce que je vous propose comme plan, on va voir d'abord donc ces deux périodes, ces deux phases. Ensuite, on va voir pourquoi il est difficile d'obéir, en quoi c'est difficile d'obéir, en quoi Noé est remarquable et nous sert d'exemple pour ce qui est obéissance à l'Éternel. Comment faire en pratique, on verra des exemples et des contre-exemples. Et enfin, je vous laisserai sur 3 questions pratiques à méditer lorsque on reviendra à la maison. Alors tout d'abord, une phase de construction. Cette première phase de construction, je ne vais pas rentrer dans l'aspect technique, Philippe en parlera un peu plus la prochaine fois, mais je vais juste souligner quelques points. Ce qui est intéressant à noter, c'est que dans cette phase de construction, Dieu va parler à Noé. Il est dit, alors Dieu dit à Noé. Voilà. Et ici, c'est le Dieu qui parle, c'est Elohim. Vous savez qu'il y a plusieurs noms de Dieu dans la Bible, mais notamment, ici, c'est le nom d'Elohim, c'est le Dieu créateur, le Dieu pluriel, celui qui, on le voit en Genèse chapitre 1, qui crée les cieux et la terre. C'est le Dieu Elohim. Et en fait, pourquoi c'est Elohim? Parce qu'on est dans une phase de création, on est dans une phase de construction. On verra que dans le chapitre 7, c'est un autre chapitre, cette phase d'embarquement des animaux. Donc cette phase, je vous ai dit tout à l'heure, l'arche, c'était un peu l'image de l'Église qui sauve finalement ces animaux, cette famille. Eh bien, on va changer de registre, ce ne sera plus le Dieu Elohim, ce sera le Dieu sauveur, le Yahvé, le tétragramme hébreu. Vous savez ? Voilà, il y a deux phases ici, on verra la signification. En tout cas, ce qu'il faut retenir dans cette phase, c'est que Noé fit exactement ce que Dieu lui avait ordonné au chapitre 22. Donc, on a ce petit verset qui nous parle de l'obéissance de Noé. Et finalement, quand on regarde dans le texte hébreu, c'est beaucoup plus brut que ça. Ça ressemble à ça, en gros. Noé fait tout, Elohim ordonne fait. D'accord ? C'est, si je synthétise les mots littéraux. C'est-à-dire que Noé fait, point, il n'y a pas de discussion. Tout, c'est la notion de plénitude, la notion de complétude, la notion d'entièrement, de totalement. Noé fait tout, c'est le même mot qui est utilisé par Genèse chapitre 1, lorsque Dieu crée, pendant les six jours de la création, la Bible nous dit « Dieu vit tout ce qu'il avait fait, et voici, c'était très bon ». Eh bien, Dieu vit tout ce qu'il avait fait, c'est le même mot qui est utilisé pour Noé. C'est-à-dire que Noé, il a obéi vraiment en tout point. Alors, je ne rentre pas dans le détail de la construction de l'arche, mais c'est une œuvre absolument gigantesque. Gigantesque. Il y aurait vraiment de quoi argumenter, de quoi discuter. Quand on voit la taille de l'arche, je vais pas m'étendre aujourd'hui, on le verra la prochaine fois, mais l'arche est vraiment gigantesque. Et finalement, cette construction de l'arche, en utilisant ces mots, c'est comme si le rédacteur de la Bible, Moïse, de la Genèse, Moïse en l'occurrence, rappelait finalement cette création de Dieu. Dieu, il donne ses instructions, d'accord ? Et Noé, c'est lui qui est le réalisateur. Il se conforme totalement au plan dans toute la totalité. Et donc, on voit une des premières caractéristiques de l'obéissance. L'obéissance, c'est faire confiance au maître, aux instructions, aux prophéties, à ce que nous dit la Bible, sans forcément connaître tous les éléments. Parce que lorsque Dieu dit ça à Noé, Noé, il se dit, mais c'est fou, quoi. Construire une arche qui a plus de deux fois la taille d'un terrain de foot, qui pouvait contenir, on a estimé, on pouvait rentrer 135 000 moutons dans l'arche. Vous imaginez la taille du bateau pour l'époque. À l'époque, on faisait des bateaux de 10-20 mètres. La construction de l'arche, elle n'a jamais été reproduite dans l'histoire de l'humanité jusqu'au 19e siècle. Il a fallu attendre le 19e siècle pour qu'on construise des bateaux aussi grands. Alors aujourd'hui, on fait des super tankers en acier, etc. Mais à l'époque, c'était gigantesque. Et pourtant, Noé n'a pas rechigné à la tâche. Il y a même la tradition rabbinique qui nous dit que Noé, on était en plein désert. Noé a dû planter des arbres, attendre que les arbres poussent et découper des planches. Vous imaginez, là maintenant, vous recevez un ordre comme ça et vous allez planter des cèdres. Ça pousse en combien de temps un gros cèdre ? 30, 40, 50 ans. Donc vous le faites maintenant et dans 50 ans, vous commencez à scier. Vous imaginez la taille, la période, 120 ans pour construire ça. Eh bien, Noé a obéi. Il n'avait aucune vision. Il n'avait que ce que la Bible nous dit. Voilà, donc ça, c'est cette phase de construction où Dieu, ou Noé, fait tout ce que l'Éternel lui dit. Et puis, il y a la phase d'embarquement. Alors, comme je vous ai dit, dans la phase d'embarquement, et dans la Bible, d'ailleurs, la nuance est là, l'Éternel dit à Noé. Donc, l'Éternel, c'est le Dieu sauveur, c'est Yahvé. Puisque là, on n'est plus dans une phase de création, on est dans une phase de salut, parallélisme entre Noé et l'histoire de l'Église qui va sauver l'humanité dont on fait partie. On est à l'abri, on est dans l'arche de l'Église, sous le sang précieux de Jésus, avec l'aide du Saint-Esprit. Et donc c'est Yahvé, ce Dieu sauveur, qui dit à Noé, qui donne les instructions à Noé. Et au chapitre 8, ce qui est intéressant, au chapitre 6, ce qui est intéressant, c'est qu'avant cette phase de construction, en Genèse 6-8, Noé... c'est verset 8, attendez. Je reprends ma Bible. Voilà. Mais Noé obtint la faveur de l'Éternel. Donc, on a encore une fois ce Dieu sauveur. Donc, ce Dieu sauveur, l'Éternel, qui donne la faveur à Noé, qui fait grâce à Noé. D'accord ? Et ensuite, on a cette phase de construction, c'est le Dieu créateur. Et on revient au chapitre 7, c'est le Dieu sauveur. Et encore une fois, au verset 5 du chapitre 7, Noé fit tout ce que l'Éternel lui avait ordonné. C'est le même mot. Et au verset 16, hein, lorsque Dieu donc termine l'embarquement, il nous est dit, l'Éternel ferma la porte sur lui. Là encore une fois, on a le Dieu sauveur. Donc Dieu donne l'ordre d'embarquer, et ensuite c'est lui qui ferme la porte. Comme un jour, Jésus-Christ va fermer la porte. Lorsque Dieu va revenir, il va fermer la porte, il va enlever son église. C'est lui qui va décider. Pour l'instant, la porte est encore ouverte. C'est pour ça que si aujourd'hui, certains d'entre vous n'ont pas décidé de monter à bord de l'arche du salut que représente le sang de Jésus, il est encore temps parce que la porte est ouverte. Apocalypse 3:20 nous dit « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, Jésus dit « J'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. » Donc aujourd'hui, c'est un jour de grâce encore parce que la porte n'est pas fermée. La porte du salut est encore ouverte à tout le monde. Et alors, ce qui est intéressant, regardez au verset 9, chapitre 7, verset 9. Il entra dans l'arche auprès de Noé, des couples, un mâle et une femelle, comme Dieu l'avait ordonné à Noé. On est dans le chapitre 7, le chapitre de l'embarquement, le chapitre du salut. Eh bien, pour les animaux, on retrouve Elohim, c'est plus le Dieu sauveur. De la même façon, comme Dieu l'avait ordonné à Noé, au verset 16, il entra mâle et femelle de toute chair, comme Dieu l'avait ordonné à Noé. Donc il semblerait que pour les animaux, la Bible n'utilise plus le mot de Dieu sauveur. Ça veut dire que le salut, le Yahvé, le Dieu sauveur, est réservé à l'humanité. C'est ce que nous enseigne la Bible aujourd'hui. C'est que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Donc il y a cette espèce de jeu qui... Ce n'est pas un effet du hasard. Moïse, il ne s'est pas trompé quand il a utilisé tel ou tel mot. Je pense qu'il y a une intentionnalité pour nous montrer que le Dieu sauveur, c'est le sauveur des hommes, de l'âme des hommes et de l'humanité. Une autre chose qui est intéressante, c'est que Dieu avait dit à Noé qu'il allait détruire l'humanité. On a vu que c'était le même mot que la corruption. Et ici, au chapitre 7, on a un autre mot qui est utilisé. Et ça, c'est remarquable. Je suis en train de regarder le... Je vais effacer... C'est où, ça? J'ai vu que tu es juste. Si quelqu'un peut m'aider. À un moment donné, il est dit, je vais effacer de la surface de la terre. Au verset 13. 6-13. Je vais les détruire avec la terre. Alors attendez, non, c'est un autre mot. C'est un autre mot qui est utilisé, je suis en train de le chercher. Mais quand il est dit que Dieu va, dit que je vais effacer de la surface de la terre, verset 7, pour échapper à l'eau du déluge. Ah, j'ai perdu, j'ai pas noté la référence. Mais en tout cas, ce qu'il faut noter, excusez-moi, je vais pas retrouver la référence, mais le mot qui est utilisé ici par Dieu, le Dieu sauveur, c'est j'effacerai. Donc c'est plus le mot destruction, le verset 7 de... C'est chapitre 6, verset 7. C'est ça. J'effacerai de la surface du sol l'homme que j'ai créé. Vous voyez, l'Éternel. Merci, hein. Merci Yves ou Colin. Merci pour le travail d'équipe. J'effacerai. L'Éternel dit, Dieu sauveur, j'effacerai de la surface du sol. On n'est plus dans le mot destruction de d'Elohim. On est j'effacerai. C'est le même mot qui signifie que Dieu dit à Moïse plus tard dans l'Exode, j'effacerai du livre de vie. C'est-à-dire que le Dieu sauveur, a priori, il n'agit pas de la même façon que le Dieu créateur. Et le mot effacer signifie aussi la notion de fluidifier, la notion de graisser. Donc c'est un mot qui est en relation avec Yahvé. Vous voyez, en fonction de celui qui agit, nous n'avons pas les mêmes mots et c'est pas les mêmes significations. C'est pas la destruction liée à la corruption où Dieu prolonge. Ici, c'est Dieu qui dit, par exemple, à Moïse, je n'effacerai pas son nom du livre de vie. Voilà. Donc ça, c'est la phase d'embarquement. La phase d'embarquement. Et on va passer maintenant Pourquoi est-ce que c'est difficile d'obéir? Eh bien, on va prendre le verset de l'Épître aux Hébreux, je vous l'ai affiché, parce que l'Épître aux Hébreux va nous donner un autre éclairage. Vous voyez, c'est par la foi que Noé, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas et saisi d'une crainte respectueuse, construisit une arche. Et là, ce qui est intéressant à comprendre, c'est que Noé a été divinement averti. La version du Semeur nous dit « Il avait pris au sérieux, je crois que je l'ai, il avait pris au sérieux la révélation de Dieu. » Donc cette notion d'être divinement averti va avec l'obéissance. Parce que lorsqu'on obéit à Dieu, c'est d'être sensible à sa parole, c'est de prendre au sérieux ce que Dieu nous dit. Hein? Ce mot qui est utilisé aussi, on le retrouve dans le Nouveau Testament. Dans l'évangile de Matthieu, lorsque les mages vont voir Hérode, ils sont ensuite divinement avertis de ne pas retourner vers Hérode, parce qu'ils connaissent son intention et ils rentrent chez eux. De la même façon, Joseph est divinement averti dans un songe qu'il faut partir en Égypte, puis après divinement averti pour revenir. Et puis le vieux Siméon, dans l'évangile de Luc, qui vient accueillir Jésus au temple lorsqu'il a 8 jours, eh bien c'est pareil, le Saint-Esprit lui révèle divinement. Donc cette notion de sensibilité que Noé avait, dont nous parle l'Épître aux Hébreux, est très importante. C'est-à-dire que l'obéissance, c'est aussi la sensibilité au Saint-Esprit, c'est comprendre l'intention de Dieu, être divinement averti. Et c'est comme ça que Noé devient héritier de la justice qui s'obtient par la foi. Et parfois, on ne prend pas assez au sérieux ce que nous dit la parole de Dieu. On n'obéit pas suffisamment parce qu'on n'a pas cette sensibilité. Il faut prier vraiment, être sensible au Saint-Esprit, être proche de Dieu par sa parole, pour comprendre. Et c'est ça, c'est l'une des raisons pourquoi c'est difficile d'obéir, c'est que parfois, eh bien, on a du mal à être, parce qu'on est, dans nos soucis, on ne marche pas avec Dieu de manière paisible, et donc on a du mal à être sensible. Et voyez ce que dit l'apôtre Pierre, lorsqu'il parle de la parole des prophètes, de la Bible en général, sur laquelle on peut s'appuyer, il dit « Vous faites bien lui accorder votre attention ». C'est pour ça qu'on insiste sans arrêt sur la lecture de la parole, parce que cette parole nous avertit divinement, nous aide à comprendre la carte du monde, nous aide à comprendre ce qui se passe, nous aide à comprendre les temps de la fin. Et si on lui prête attention, la parole de Dieu est comme une lampe qui brille dans un lieu obscur. Donc difficile d'obéir aussi pour Noé, parce qu'il est dans un contexte qui ne s'y prête pas. Pendant 120 ans, il va aller à contre-courant de sa société. Il va construire un bateau énorme, probablement, on pense, en plein désert, je vous l'ai dit, et il n'avait pas de manuel d'instruction. Hein, quand vous allez chez Ikea, vous êtes vraiment content d'avoir le petit manuel qui vous aide à monter. Mais imaginez monter un Billy, par exemple, sans manuel d'instruction, c'est pas évident. Ben, Noé, c'est ça. Hein, Dieu lui dit, tu construis une arche, il lui donne les dimensions, il lui dit, tu te débrouilles. Donc, c'est pas facile. Donc tout ça, c'est difficile d'obéir, parce que quand la parole de Dieu est complexe, quand on ne comprend pas la volonté de Dieu, quand on n'arrive pas à interpréter les événements, parfois on a du mal à obéir. Et ça, c'est un obstacle. Il faut vraiment l'aide du Saint-Esprit pour qu'il nous aide. Donc obéir, c'est difficile dans un contexte qui ne s'y prête pas. C'est difficile quand la société dit le contraire. Notre société dit « mangeons, buvons, demain nous mourrons ». C'est ce que nous dit la société. Eh bien nous devons ramer à contre-courant. On a des moqueurs. L'apôtre Pierre nous dit qu'il viendra des moqueurs dans les derniers temps. Vous savez, lorsque Lot est averti de sortir de Sodome, qu'est-ce qu'il fait? Tout naturellement, il prévient ses gendres. Et que nous dit la Bible? À ses yeux, il parut comme plaisanté. Les gendres de Lot n'ont pas pris au sérieux l'avertissement de Noé. Et ils sont morts de la destruction. Aujourd'hui, nous avons des droits individuels qui règnent sans partage. Le droit individuel, c'est « je fais ce qui me plaît ». Le droit divin nous dit que la terre est irréversiblement corrompue et qu'un jour viendra le jugement. Et donc, c'est à nous de choisir. Est-ce qu'on va mettre en œuvre le droit individuel, hein? Aujourd'hui, j'ai droit à. J'ai droit à ci, j'ai droit à ça, j'ai droit à faire grève, j'ai droit à paralyser le pays, etc. J'ai plein de droits. D'accord? Et de l'autre côté, Dieu nous dit « voilà ma parole, voilà les instructions que je te donne. » Donc, ce n'est pas facile d'obéir alors que la société dit le contraire. Et puis, ce n'est pas facile d'obéir parce qu'on a notre moi, on a notre vieille nature, notre orgueil qui nous pousse dans le sens contraire. Moïse va dire au peuple, vous êtes un peuple au cou raide. Et c'est vrai, très souvent, moi j'ai le cou, la nuque raide. C'est Oswald Chambers qui disait, nous faisons une idole de notre indépendance et de notre caprice, et nous refusons de les appeler par leur nom. Je répète, nous faisons une idole de notre indépendance et de notre caprice, et nous refusons de les appeler par leur nom. Il y a bien des domaines dans notre vie, dans ma vie, qui ne sont pas encore soumis à la seigneurie et à l'obéissance de Jésus. Donc notre ancienne nature, c'est vraiment un obstacle. Et puis c'est difficile d'obéir parce que on doit avancer sans forcément avoir l'ensemble des étapes devant les yeux. Imaginez, Dieu dit à Noé qu'il va se produire quelque chose qui ne s'est jamais produit avant, la destruction de la terre par l'eau. Pas facile quand on a une vue à court terme. C'est ce qu'on appelle la foi, c'est croire que ce qu'il y a derrière, c'est voulu par Dieu et que Dieu est aux commandes. On reverra la prochaine fois, si j'ose dire, avec Philippe. Récemment, j'étais en Martinique pour visiter notre fils aîné. Et je discutais avec un frère récemment converti qui est vraiment bouillant pour le Seigneur. Et je lui ai posé la question, qu'est-ce qui est difficile pour toi dans l'obéissance? Il me parlait d'obéissance, alors j'ai saisi l'occasion. Qu'est-ce qui est difficile pour toi? Et il m'a répondu, et je trouvais que c'était formidable, donc avec son autorisation, je le partage avec vous. Il m'a dit, l'obéissance, c'est ne pas faire ce que je veux, mais faire ce que lui veut. L'obéissance, c'est pas faire ce que je veux, mais ce que lui veut. Il y a ce verset remarquable de Job qui nous dit, Job 23, 12, pour ceux qui prennent des notes, Job dit, « J'ai fait plier ma volonté aux paroles de sa bouche. » C'est ça l'enjeu. C'est faire plier sa volonté, entraînée par le monde, par l'ambiance, pour obéir à ses paroles. Et ça, c'est un véritable défi. Pour ce frère, pour moi, et j'imagine aussi par vous. Alors, en pratique, comment est-ce qu'on peut obéir? Comment obéir en pratique? Alors, ce n'est pas à moi de vous dire comment obéir, mais juste quelques réflexions. Quelques réflexions. Obéir à Dieu, premièrement, parce que la Bible nous dit que tout ce que Dieu fait est parfait. Donc, si on obéit à Dieu, on a toutes les chances de ne pas se tromper. Parce qu'un jour, ça viendra. Noé a obéi à Dieu, il a attendu 120 ans, mais au bout de 120 ans, c'est venu. Le déluge est venu et Noé devait être content. Il s'est dit, ça fait 120 ans que je bosse et ça y est, le premier nuage arrive, la première goutte de pluie arrive, j'ai bien fait de le faire. Très souvent, on se dit, quand on a obéi à Dieu et que les choses arrivent, eh bien, on est content de l'avoir fait. Vous savez, très souvent, quand tout va bien, on se relâche, on lit plus sa Bible, merci Seigneur, etc., on vient au culte. Puis dès que ça va pas, oh là là, c'est la catastrophe, on se raccroche aux branches, aïe aïe aïe, Seigneur, vite un verset, j'ai besoin d'encouragement, etc. En fait, les temps difficiles se préparent avant, par l'obéissance, par la lecture de la parole de Dieu. Donc obéir parce que tout ce que Dieu fait est parfait. Obéir en faisant ce que Dieu me demande, même si je vois pas l'étape suivante, même si la tâche me paraît énorme, eh bien, obéir, parce que Dieu, il a toujours raison, au final. Et c'est lui qui a la solution finale. Alors, on peut, pour ça, regarder des bons et des mauvais exemples. Je vais vous en citer rapidement, mais vous les connaissez. Hein. Le mauvais exemple, vous avez Jonas, d'accord, qui a désobéi. Et Dieu est obligé d'aller le chercher. Et finalement, il est allé parler à Ninive. Ça a entraîné une grande repentance. Je vous laisse lire le livre de Jonas. Moïse, lorsque Moïse, pareil comme Noé, reçoit les instructions de la construction du tabernacle, eh bien Moïse obéit. Et la Bible nous dit « Tu feras tout selon le modèle que je t'ai montré sur la montagne. » Abraham, il obéit, il partit sans savoir où il allait. Josué à Jéricho, « Tu feras 7 fois le tour de la ville, tu lèveras pas ton arme, tu vas juste crier. » 7 fois il le fait et les murailles tombent. David, lorsqu'il prévoit d'aller attaquer, chaque fois, il consulte l'Éternel. « Seigneur, est-ce que je dois passer par ce chemin ?»« Non, passe pas par chemin, passe par celui-là. Et moi, je ferai ci et ça. » Et il se passe ce que Dieu dit. Voilà. Donc ça, c'est l'obéissance parfaite de certaines personnes. Et puis, on ne peut pas parler de Noé. Je vous ai dit, Noé était un type de Jésus-Christ. Sans parler de l'obéissance de Jésus-Christ. Parce que Jésus, lui, était parfaitement obéissant. L'Épître aux Hébreux nous dit que Jésus a appris bien qu'il fût le Fils, l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Et ça nous dit, ce verset nous dit que l'obéissance, ça coûte, ça fait souffrir. Et Jésus l'a fait. Jésus s'est humilié lui-même. Philippiens 2 nous dit, en faisant preuve d'obéissance jusqu'à la mort. Ça a coûté à Jésus la mort pour que nous soyons sauvés. Je vous propose, Maxime, si tu peux passer une petite vidéo, on va faire un break et puis après on conclura. Enfin, mais je vous laisserai trois questions. J'aimerais que nous puissions écouter quelques paroles de ce chant d'exo, extrait du dernier album, justement, qui raconte cette lutte de Jésus dans le jardin de Gethsémané, seul face au Père, est-ce que je bois ou pas cette coupe ? Le chant s'appelle « Comme tu veux ». Je vous laisse méditer ces paroles, on va prendre 2 ou 3 minutes. Je vous invite soit à regarder les paroles, soit à fermer les yeux et à vous poser la question au fond, suis-je bien obéissant ? Est-ce que j'ai besoin peut-être de faire quelque chose dans ma vie ? Mettre en règle un certain nombre de choses dans ma vie. Voilà, je vous laisse quelques minutes de méditation. S'il te plaît. Voilà, on va conclure. Merci. On va conclure par 3 questions que je voudrais vous laisser. Première des questions, qu'est-ce que Dieu me demande aujourd'hui pour lequel je dois obéir ? Peut-être que Dieu vous parle ce matin, vous a parlé ces derniers jours, et vous devez répondre par un acte d'obéissance, un acte de foi. La deuxième question, c'est est-ce que je suis, comme Noé, sensible aux avertissements divins ? Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Parfois, on n'y prend pas garde. C'est ce que nous dit la Bible. Est-ce que je suis sensible à ce que Dieu veut dire, aux avertissements divins ? Est-ce que Dieu est en train de me reprendre sur certains thèmes ? Troisième question, comment est-ce que je vois Dieu ? Quelle image j'ai de Dieu pour avoir suffisamment confiance en lui ? Si je vois Dieu tout petit, lointain, si je vois un petit Dieu, un petit Dieu ne va jamais pouvoir résoudre mon grand problème, ma grande question. Si je vois Dieu, comme nous l'a rappelé Nasser en début de culte, comme un Dieu merveilleux, un Dieu tout-puissant qui vient habiter en nous et qui soutient tout l'univers par sa parole puissante, du coup c'est plus facile d'obéir à ce Dieu qui ne se trompe jamais, qui mènera tout à bonne fin pour moi, nous dit David dans un psaume, hein, avec toute chose qui concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Et ça vaut le coup, j'aimerais vraiment vous mettre au défi, ça vaut le coup d'obéir à un Dieu comme ça. Je le vis dans ma vie depuis plusieurs années, où je suis complètement dans le brouillard au quotidien, je vis un peu au jour le jour par la foi, et je peux vous dire que Dieu répond de manière miraculeuse, au bon moment, et toujours au bon endroit, de la meilleure des manières. Et Jésus nous laisse cette promesse, que celui qui quitte sa propre volonté pour embrasser la volonté de Dieu, eh bien, il va recevoir au centuple. Et Dieu veut chacun nous bénir. Voilà, c'est mon souhait pour vous ce matin. Et je vous souhaite un bon dimanche.